géants, des danseurs, des arachnophobes.
Et j'ai le sentiment que cet homme s'ennuie beaucoup avec lui-même.
Chaque soir.
Alors je vais chanter une chanson que je vais chanter pour l'instant.
Chez nous.
Qu'à ma copine.
C'est chez vous.
C'est concertant.
N'importe quand, quand vous voulez, je vais venir.
Ouvert la nuit.
Du lundi au vendredi.
C'est tout.
À partir de 21h. France Inter.
La différence.
Et c'est l'heure de la basse, si j'y suis avec Daniel Mermet.
Encore de la violence. Alors là, j'ai dit non, arrêtez la violence. Un type qui est allé faire une prise d'otage à Pôle emploi, parce qu'il n'était pas content. Il a pris la directrice, je crois, dans le 11e, là, de Pôle emploi, en otage. J'ai dit non, c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. S'il veut changer les choses, mais il avait qu'à aller voter hier pour François Hollande. Et là, son sort aurait changé, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est, ça, de prendre les gens en otage? Non, la violence, il n'y a que l'État qui a le droit d'utiliser la violence. C'est le principe même de la démocratie. Si tu n'es pas à la tête de l'État, tu fermes ta gueule et tu vas voter François Hollande.
J'ai écouté votre émission cet après-midi sur octobre 1961. Il se trouve que j'habitais à l'époque près du pont de Neuilly, mais du côté banlieue. Après, j'ai été étudiante à Nanterre, donc ça me marque parce que j'ai connu toute cette époque-là. Et c'était très instructif parce qu'à l'époque, on nous avait tout caché. J'étais adolescente, ça n'était passé au-dessus de notre tête, personne n'en avait rien dit. On avait simplement vu qu'il y avait des mouvements de police dans le quartier, etc. J'habitais Courbevoie. Et donc je trouve que c'est très instructif et cette émission, voilà. Je suis très contente de l'avoir. Je suis tombée dessus par hasard, mais je vous en remercie. Au revoir.
Ce jour-là... octobre 61, j'étais en 6e, j'avais 11 ans, j'étais au lycée Michelet. Et pour y aller, je passais par la porte de Versailles. Et je me trouvais juste devant les portes du Palais des Sports. Il devait être 10h, 9h du matin, je ne sais plus. Et là, il y avait un flic avec un PM, un gardien de la paix, qui gardait les portes. Et au moment où j'arrive, il y a eu 4 ou 5 énormes quarts de garde mobile. Qui sont arrivés très vite en pimponnant, le flic me braque avec son PM pour me faire signe de rester là, de ne pas bouger. Et là, j'ai vu rentrer les cars, ils ont ouvert les portes, plein, il y en a plein qui sont sortis, ils ont ouvert les portes et il y avait plein d'Algériens dans les cars. Et il y en avait un qui avait le visage collé à la fenêtre, il ruisselait de sang. C'était très impressionnant, j'étais qu'un gosse, hein. Et à l'époque, comme j'étais très pieux, j'ai eu l'impression, je croyais beaucoup en Dieu à l'époque, j'avais eu l'impression de voir le Christ aux outrages, quoi, couronne d'épines, tout ça. Et bon, il rentre, et moi je reste là comme un imbécile de gamin, un peu stupéfié par ce que je venais de voir, et le flic qui m'avait fait signe d'arrêter commençait à me regarder d'un sale air, quoi. Et à ce moment-là, la surgit de je ne sais où, il y a un jeune gars qui est arrivé, un type qui avait 25 ans, je sais pas. Il m'a attrapé par le bras, puis il m'a tiré vers le métro en me disant « Reste pas là, petit, ça torture là-dedans ». Il m'a lâché dans le métro. Je ne l'ai jamais revu, je ne savais pas, je sais pas qui c'est, je ne sais pas ce qu'il savait. Mais c'est un souvenir qui m'est resté toute ma vie, quoi, 50 ans. Un truc terrible.
Eh ben, Mermet, t'es un parfait traître à ton pays. C'est dommage, tu étais présent à ce jour-là, tu as assisté, mais tu ne dis pas pourquoi ces gens-là ont été foutus dans la Seine. Parce qu'ils avaient attaqué les gendarmes et que les gendarmes et la police se sont défendus. Nous étions en guerre à ce moment-là. Et c'est dommage, toi qui as assisté là-bas, que tu t'es pas foutu dans la scène avec eux, parce que tu es un véritable salopard, un fouteur de merde, et tu remets toujours ça sur le plateau pour attiser les haines. Tu es un véritable salopard sans dire exactement les véritables faits réels. Salaud, va.
Salut Daniel, salut à tous. D'abord bravo et merci pour la série d'émissions. D'autant plus que c'est pas juste une émission pour le cinquantenaire, mais ça fait longtemps que tu suis le sujet. Un petit témoignage, moi juste pour dire, je suis le petit-fils du dernier policier qui a été tué par le FLN dans les attentats le 2 octobre 61. Donc il a été buté par le FLN le 2 octobre, toute la presse titre le mort de trop. Le 5, il est enterré en présence de Papon, et juste après les obsèques, Papon va décréter le couvre-feu. et qui fait les suites qu'on connaît, le 17. Donc mon grand-père, en fait, est le dernier mort parmi les rangs de la police. Et donc moi, j'ai à peine 35 ans, j'ai méconnu, hein, j'ai fait 2 ans d'enquête là-dessus, il y a 5 ou 6 ans. J'ai eu plein d'infos passionnantes. Et voilà, juste pour témoigner que la mémoire de ça n'est pas morte, que c'était passionnant parce que mon grand-père, qui était un salaud évidemment, mais t'apprends aussi que j'ai un témoignage enregistré de la BPR qui me dit qu'il était un des responsables des faux papiers pour le Vercors, donc c'était un vrai résistant, enfin c'est intéressant la question du nationalisme par rapport à ça, tout ça. Voilà, tout ça pour dire que cette mémoire-là n'est pas morte et puis que les jeunes, on reprend le flambeau parce que ça nous intéresse pour nos responsabilités aussi de Français et de jeunes Français. Voilà, puis une dernière petite anecdote, j'ai rencontré aussi, dans le cadre de mes recherches, Maître Villemain, qui était l'avocat de Papon, que j'ai cherché à joindre et qui ne m'a jamais répondu. Mais Villemain m'a fait passer plusieurs courriers auprès de Papon quand il était encore vivant. Et juste une anecdote, Villemain m'a dit que Papon me répondrait sans doute volontiers, parce que cette période de sa carrière à la préfecture était la plus heureuse de sa vie professionnelle. Donc voilà, c'est quand même comme ça que son avocat voyait sa période à Paris. Bisous à tous, et puis bonne continuation, puis on espère que ça ne s'arrêtera pas juste au cinquantenaire, et que vous continuerez à suivre le sujet jusqu'à la reconnaissance des exactions par l'État français. Ciao.
Bonjour Mermet, oui, Francis Louis, commissaire de police honoraire à Nice. À propos du 17 avril 1961, c'est pour moi un vieux souvenir. J'ai participé, étant à l'époque jeune gardien de la paix, j'ai participé à la répression et j'avoue ne pas avoir aujourd'hui de remords particuliers. J'ai distribué quelques coups de bidule avec une certaine générosité et avec beaucoup d'énergie. Il faut dire que les manifestants pacifiques, prétendument pacifiques, n'étaient pas là pour nous envoyer des fleurs, et encore moins envoyer des fleurs aux Parisiens, qu'ils auraient massacrés allègrement. Alors donc, la répression était nécessaire, la répression a été énergique. Je ne sais pas combien de morts elle a fait dans les rangs FLN, peut-être 2, peut-être 200, peu importe. Elle était nécessaire. Et croyez-moi, Mermet, nous avons cogné avec beaucoup de cœur sur ces gens qui ne nous avaient pas fait de cadeau, parce que nous avons eu beaucoup de morts dans la police parisienne. Et ma foi, nous nous sommes défoulés allègrement. Voilà.
Voilà quelques messages de le répondeur de la base où j'y suis, suite aux 2 heures que nous avons passées, jeudi et vendredi, autour du 17 octobre 1961. C'est le 50e anniversaire. Donc aujourd'hui, il y a toute une série de manifestations, notamment à Paris, à 18h, au cinéma Le Rex, sur les Grand Boulevard, une manifestation partira et descendra jusqu'au pont Saint-Michel. Manifestation également à Marseille, à 18h30 à la gare Saint-Charles, à Lyon, sur le quai Victor Augagneur à 18h30, à Strasbourg, à 18h30 au pont Corbeau, également à la Courneuve à 17h, marche pacifique en présence de Maurice Rachefousse, notre ami, historien de la répression. Et puis à 18h, une commémoration officielle à la mairie de la Courneuve. En revanche, il n'y aura rien à Neuilly. Le maire de Neuilly considère que sa ville n'a jamais été associée à cet événement par le passé. C'est une mémoire courte, en effet, parce qu'on sait que c'est bien du pont de Neuilly que des centaines de manifestants pacifiques ont été réprimés. Beaucoup venaient de Nanterre et c'est là, sur ce pont, qu'ils ont été battus, tués, certains, et jetés dans la Seine par la police. C'est au moins la réponse qu'a fait M. Jarry, le maire de Nanterre. On voit à travers tout cela que la mémoire du 17 octobre 61, 50 ans après, est toujours très vive, a laissé des blessures profondes dans la mémoire française. Et c'est pourquoi nous continuons aujourd'hui un troisième volet sur cette émission. Demain, on rediffusera une émission qu'on a fait en 1995, qu'on avait diffusée en 1995, avec Benjamin Stora, l'historien que vous connaissez. On avait reçu à l'époque tant de messages comme ceux que vous venez d'entendre, qu'on avait demandé à Benjamin Stora s'il acceptait de venir y répondre. Et c'était il y a 17 ans. Et on va rediffuser cette émission demain parce que on sait bien, on le sent bien, puis on entend dans les messages que vous laissez dans la boîte vocale, comme ceux que vous nous adressez par les mails, etc., que, évidemment, cet anniversaire suscite et soulève des blessures, des ressentiments, et effectivement, un vieux fond de fiel et de haine, pas seulement, aussi, des choses qui affleurent à la mémoire. Et beaucoup, il faut bien le dire, d'un sentiment diffus, une gangrène de culpabilité qui est assez bien exprimée dans ce fameux poème de Kateb Yassine, le grand poète Kateb Yassine qui, en 1987, écrivait au sujet du 17 octobre 61 « Peuple français, tu as tout vu ». Oui, tu as tout vu de tes propres yeux, tu as vu notre sang couler, tu as vu la police assommer les manifestants et les jeter dans la Seine rougissante n'a pas cessé les jours suivants de vomir à la face du peuple de la commune, ces corps martyrisés qui rappelaient aux Parisiens leur propre révolution, leur propre résistance. Peuple français, tu as tout vu, oui, tout vu de tes propres yeux, et maintenant vas-tu parler, et maintenant vas-tu te taire. Alors, c'est un extrait de La Gueule du Loup, long poème de Kateb Yassine. Et c'est vrai que ce peuple français, ce peuple parisien s'est tu longtemps pour des raisons qui ne sont pas si mystérieuses que ça. Gilles Manceron, dans la postface exactement, d'un livre remarquable de Marcel et Paulette Péju, et qui était à l'époque des militants très engagés, et à l'occasion de la republication de « Le 17 octobre des Algériens », Gilles Manceron explique la triple occultation du massacre. Pourquoi ce massacre a été si longtemps occulté. Depuis 20 ans, j'ai eu l'occasion de le dire, on est revenu, on a cherché, on a travaillé, les historiens ont travaillé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses sur ce 17 octobre 61. Il y a des films qui sortent et qui ressortent, dont le film « Octobre à Paris » de Jacques Panigel, dont nous avons parlé, « Octobre noir » où Malek Saïd Karim et les autres, un court-métrage d'animation que je vous recommande. Et puis, on en parle beaucoup et on a raison, le film de Yasmina Hadi, « Ici, on noie les Algériens », 17 octobre 1961, « Ici, on noie les Algériens », c'est ce fameux graffiti qui avait été visible sur un pont parisien. Donc, l'important de tout ça, pour donner tort à Kateb Yassine, pour lui donner tort sur ce sentiment de culpabilité qui sort de son poème, de ses quelques vers, c'est que l'État français reconnaisse sa responsabilité dans ce massacre du 17 octobre 1961, afin que l'on passe de la culpabilité à la responsabilité, ce qui n'est pas du tout la même chose. Une dernière chose encore, il faut bien rappeler et préciser que le 17 octobre 1961 n'est en rien une bavure, qu'il est un épisode de cette longue répression contre le mouvement de libération nationale algérien, de ce peuple qui entendait tout simplement se libérer et disposer de lui-même, comme la France l'avait fait pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était la même aspiration. Voilà notre sujet du jour. Vous avez compris qu'il y a énormément de choses à dire autour de cette date. Et après cette date, on y reviendra dans les jours prochains et tout au cours de l'année, puisque c'est le 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Salut Daniel, salut à tous. Et juste une info pour vous dire que ce soir à 21h à la Maison des Métallos, il y aura une lecture en hommage aux victimes du 17 octobre 61 d'un extrait d'un roman de Stéphane Chaumette aux éditions du Seuil qui s'appelle « Même pour ne pas vaincre ». Voilà, la lecture sera dite par deux comédiens, formidables qui sont Amou Graya et Mounir Margoum. Elle est dirigée par Elodie Chanu et vous êtes tous les bienvenus et les invités à 21h à la Maison des Métals. Bonne journée à tous, au revoir.
Chers amis ciné-débatteurs du pays Grand-Villet, en ce lundi 17 octobre, venez tous nombreux au Select Ciné-Débat Grand-Ville, en partenariat avec la Ligue des Droits de l'Homme, vous présentera en avant-première le film de Yasmina Hadi sur le 17 octobre 61. Ici, on noie les Algériens, avec un débat ouvert à la salle après cette projection. C'était Yann de Saint-Père-sur-Mer.
Daniel, en direct de Place du Châtelet, là, il est 18h quelque chose. Samedi, on est les vaccinés. À un moment donné, il y a encore au micro la diversion de santé et tout. Il y a des manifestants pour contre la France-Afrique qui manifestent et qui sont entourés par les keufs. Et là, en fait, on a arrêté tout cyclagé des indignés et hop, on est allé à Châtelet les soutenir. On a investi la place de Châtelet, il y a plein le monde. On a quasiment encerclé les flics et tout. Et franchement, c'est un truc de malade, quoi. Je sais pas comment ça va se finir, voilà, je te rappellerai peut-être tout à l'heure. Salut.
Et tout le monde lève les mains et secoue les mains en l'air en signe d'approbation de la marche des indignés aujourd'hui, 15 octobre à Paris. Le cortège de Belleville qui arrive à République et qui va se diriger vers l'hôtel de ville. Et la banderole en face de moi, c'est pas une dette, c'est du racket. Christine, prends garde, les Portugais te regardent. Prends garde, regarde.
Movimento M12M, precários nos querem, rebeldes nos terão.
Reiter, vous nous voulez, rebelles vous nous aurez.
Voilà. C'est une phrase d'un mouvement au Portugal qui s'appelle les précaires inflexibles. Parce que c'est la flexibilité du marché du travail, mais on dit on est précaire mais inflexible. On est avec le mouvement 12 mars de Lisbonne qui est né avec la manifestation du 12 mars 2011. C'était la plus grande manifestation après la révolution de 25 d'avril 1974.
Bon, comme vous le savez, tel que la Grèce, hein, les agences de notation ont noté le Portugal comme des pics, donc les ouais. Ports de l'Europe. Très bien, on accepte cette étiquette, mais on n'accepte pas que les banques et les finances nous fassent faire des sacrifices. Sacrifices du caralho. Sacrifices, non, non merci.
Et comment ça se passe au Portugal? Il y a un mouvement des indignés important, comme il y a eu en Espagne?
Figurez-vous que même avant les indignés en Espagne, il y a eu le 12 mars au Portugal qui a rassemblé plus de 250 000 personnes, ce qui est énorme pour un petit pays. Et donc aujourd'hui aussi, les gens vont sortir pour dire basta. On veut une autre démocratie, on veut d'autres formes d'organisation, etc. etc. Ça, ce modèle économique, ça ne nous suffit plus. Voilà. Exemple sur Facebook, M12M, Paris, portugais, d'accord. Les Portugais prennent la rue. En France, vous allez très vite d'accord. Tomber sur nous. Ouais.
Très bien.
Paris! Debout, sous les toits, Paris, debout, sous les toits.
Là, il y a la banderole. Nous sommes les 99%, nous sommes les anonymes, nous sommes les indignés.
Voilà des slogans repris des États-Unis, c'était à Rome, c'était à Londres, c'était partout ce week-end dernier. Là, c'était à Paris. Très intéressant quand même de s'intéresser à ce qui se passe au Portugal. On ignore un peu hein, ce qui se passe là-bas et nos amis portugais en prennent plein le museau. Voilà pourquoi nous continuons de nous intéresser à ce mouvement des indignés, mais aujourd'hui, nous sommes le 17 octobre 1961, il y a 50 ans.
La police est majestée à la Seine.
Mon père était sur le pont de Neuilly le 17 octobre 61. On l'a su très, très tard, hein, parce que les vieux Algériens, les familles, avaient cette dignité de l'indépendance retrouvée en 62. Et ils ont dit, le passé est mort, on construit.
Si tu savais tout ce qu'on a souffert en France, alors c'est pas marrant, c'est pas rigolo.
On a souffert, on ne veut pas transmettre notre vie d'esclave, notre vie de souffrance. Et donc, moi, j'ai su le 17 octobre 61, assez tard, hein, j'avais 15-16 ans. Hein.
Bonjour, je m'appelle Samia, je suis née le 6 mars 1961. Et j'ai toujours cru, toute petite, c'est une arabe de Paris qui vous le dit, que quand on était arabe, on risquait de finir dans la Seine, mais je ne savais pas pourquoi.
Et ça, je n'oublierai pas tout ce que j'ai souffert.
Les vieux n'ont jamais dit à leur fils ce qui s'était passé, n'ont pas transmis la mémoire. Donc les beurs sont sans mémoire. Mon Dieu, s'ils savaient que leurs pères ont été souvent des héros.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est La Basse et J'y suis, avec des archives de La Basse et J'y suis. Ici, on noie les Algériens, 17 octobre 1961.
Arrêtez, sans armes, sans des matraques, sans rien, absolument rien, juste les mains vides. Tout, des polices, il y en a des armes, il y a des mitrailles, des revolvers, des matraques, de tout. Nous, on n'a rien, on a juste les mains vides comme ça.
On croyait que la police française, il va pas le taper dessus, puis on manifeste pour le couvre-feu, quoi, qui ça prolonge, quoi. On croyait pas que la police française, il va nous taper dessus, puis eux, ils ont tapé, quoi.
Ils étaient vraiment méchants. Ils marchaient partout. Ils marchaient sur les femmes, sur les gens, ils les tapaient.
Il y avait des messieurs qui étaient blessés, puis il y en avait qui étaient morts. J'en ai vu un qui respirait plus. Il a crié un coup, puis il s'est arrêté après.
J'ai essayé de la tuer, j'ai essayé de la gommer, j'ai essayé de la maquiller, de la repeindre, rien à faire. Quelle saloperie la mémoire! J'ai essayé de l'enfouir au fond du placard, j'ai essayé de la négationner, de la révisionner, de lui interdire l'accès à mes archives, j'ai essayé de l'enterrer sous une belle et lourde dalle de marbre, sous une plaque commémorative, sous un tas de médailles, de fourragères, de fleurs, de couronnes, de marseillaises, sous un tas d'historiens à ma dévotion. Saloperie de mémoire. J'ai essayé de la mettre dans le même sac que celui de Bethlehem, dans le même seau que celui de Primo Levi. J'ai essayé de la noyer dans la Seine qui servit de linceul au père de Malika. J'ai essayé de la gazer comme 8423, le père de Pierrot, mon ami. J'étais jaloux de ceux qui donnaient l'impression d'avoir réussi à s'en séparer. Et j'ai essayé de faire pareil. Je me sentais lourd, con, plombé. J'ai dansé, léger, insouciant. Place Clichy, pour oublier, je suis allé voir des films sexy. Comment font les autres? Eh ben comme moi. Je m'aperçois qu'ils font comme moi, que chacun déjoue, que chacun compose, que chacun fait avec, mais que nul n'oublie, tout à fait tout. La mémoire chemine, buissonnière, incongrue, mais elle est là, gangrène ou regret joli. La mémoire n'est pas un devoir, c'est la vie, ce qui n'est pas un compliment. L'oubli ne se décrète pas, monsieur le président. Vous pourrez dire « vos gueules les vaut », vous pourrez dire « amnistie ». Il y a quelque chose qui résiste, même chez le plus con, même chez le plus petit. Même si ça fait mal à la France du général, pour ceux qui confondent et qui chantent « Général, nous voilà ». Oui, vive l'oubli, mais c'est la mémoire qui choisit ce qu'est l'oubli. Trop longtemps, on nous a dit « Circuler, il n'y a rien à voir, c'est pour la bonne cause. Mais aujourd'hui, on devrait être content d'être des citoyens pareils, résistants à l'oubli, à nouveau, friands de lumière, nous les enfants de lumière. De quoi sommes-nous coupables? De quoi sommes-nous responsables? On devrait être fiers et contents d'être capables de se poser des questions comme celle-là, ici, maintenant. Qu'est-ce que nous aurions fait à leur place? Qu'est-ce que nous faisons à notre place? Saloperie de mémoire qui n'a jamais voulu m'accorder sa collaboration.
Chantons une nouvelle fois la Marseillaise. Allons en vent de la patrie.
Michel Debré.
Jacqueline Baudrier. Le prétexte de ces manifestations, vous le connaissez, ce sont les récentes mesures prises par le ministre de l'Intérieur et le préfet de police. Il avait été conseillé aux musulmans algériens de ne pas sortir entre 20h30 et 5h30 du matin pour éviter de nouveaux attentats contre les gardiens de la paix et aussi pour que les travailleurs musulmans ne soient pas confondus avec les terroristes. Ces décisions, diverses organisations politiques et syndicales les condamnent, Force ouvrière de la région parisienne, le PSU, la Ligue contre le racisme et le mouvement de la paix. Aux arguments de ces organisations, M. Roger Frey, cette nuit, devant les députés, a opposé les raisons pour lesquelles ces mesures ont été prises et surtout, il les a justifiées par leur efficacité, Jean-Pierre Elkabbach.
En effet, du 29 août au 7 octobre dernier, 102 attentats avaient fait 99 victimes, dont 52 tués musulmans et 11 morts parmi le service d'ordre. Depuis le 7 octobre, c'est-à-dire depuis l'application de ces mesures, il n'y a eu qu'un seul attentat faisant un blessé. Le FLN essaie donc maintenant par tous les moyens d'obtenir la suppression des décisions gouvernementales qui gênent son action terroriste. On ne sait pas encore pendant combien de temps ces mesures resteront maintenues. Elles seront en tout cas appliquées jusqu'à ce qu'on puisse être assuré que le retour à la normale n'entraînera pas des risques pour des vies humaines. C'est ce qu'a précisé d'ailleurs M. Roger Frey. D'autre part, on a rappelé à Paris 6 compagnies de CRS et 4 escadrons de gendarmerie pour bloquer d'éventuelles manifestations musulmanes. La police vérifie soigneusement en ce moment l'identité de chacun de ces 9260 Algériens, vous l'avez dit tout à l'heure Jacqueline Baudrier, 6600 d'entre eux sont au Palais des Sports, de la Porte de Versailles, 1800 au Stade de Courbertin et 660 à Vincennes. Un premier contingent de 500 hommes a pris l'avion ce matin à Orly pour Constantine. Un deuxième contingent, qui groupe 1000 Algériens, sera acheminé demain vendredi par bateau à partir de Marseille. En Algérie, ils seront tous assignés dans leur commune d'origine.
Voilà ce que disait en gros la Voix de la France ce jour-là, ce 17 octobre 1961. Mais il y avait en ce temps-là des Français en France et des Français, des jeunes Français qui étaient désappelés. Les soldats du contingent, il y en a eu beaucoup qui sont partis en Algérie et certains étaient en France et faisaient leur service militaire. C'était le cas de Gérard Grange qui aujourd'hui est prêtre à Marseille, et qui se souvient.
C'était le 18 octobre, donc, 61. Nous avions fait une journée normale au CISS, ça s'appelait Service d'instruction du service de santé des armées, à Vincennes, où l'on formait des infirmiers. Et le soir, vers 5 heures, notre gradé est venu nous demander, les séminaristes, de descendre dans la cour avec notre casque lourd et une tenue de combat. Nous sommes montés dans un camion, nous ne savions absolument pas où nous allions. Simplement, de manière un peu mystérieuse, on nous a dit, il y a quelque chose de très délicat, il faut le type sérieux, c'est très délicat, voilà. Et on est arrivé brutalement projeté, si vous voulez, d'une vie de caserne toute simple, dans l'horreur. On a vu, dans le grand amphithéâtre, disons, de la porte de Versailles, ce que j'ai appris à être des milliers, mais enfin, beaucoup de gens, d'hommes, essentiellement des hommes, africains, nord-africains. Et à ce moment-là, on a vu un capitaine, dont j'ignore toujours le nom d'ailleurs, qui était vert. Et vous êtes séminariste, on a dit oui. Et Pommier et moi, nous avons été à une espèce de petite fenêtre et nous avons vu le comité d'accueil dont parle Jean-Luc Enaudi, c'est-à-dire un autobus de la RATP, dont sortaient des gens avec les mains sur la tête, et une rangée de civils, d'ailleurs, je tiens bien à dire que c'était des gens en civil.
Des flics en civil.
J'ai appris ensuite que c'était des flics, je ne savais pas du tout à ce moment-là. Mmh. Qui tabassaient. Alors ça criait. Il y en a qui roulaient par terre. Et en général, on essayait d'atteindre la tête et puis les parties génitales. Mmh. Évidemment, c'était assez laid. Et le capitaine en question a dit, c'est un déshonneur pour la France. Mmh. Et en rentrant à droite, il y a une pièce qui doit faire 15 mètres carrés qui devait être prévue pour l'entretien. Et j'ai vu 9 types par terre, morts.
Morts ?
Morts, ça c'est sûr.
Pourquoi vous en êtes sûr ?
Parce qu'il me l'a dit, le capitaine me l'a dit, puis ils étaient balancés comme ça. Ah. À ce moment-là, j'ai accompagné les types qui voulaient aller aux chiottes. Mm-hmm. Ça a duré des heures, ça aussi. J'ai accompagné un type après l'autre, si vous voulez. On attendait qu'ils aient fini, puis on les ramenait à leur place. Mm-hmm. Et au moment où nous allions rentrer, on a été refoulés brutalement par les gardes mobiles, et il y en a un qui a tiré une rafale de mitraillettes.
Qui a tiré ?
Le garde mobile.
Oui.
De bas en haut, je me rappelle encore très bien, et un type en a ramassé, derrière, en sang. Et puis on m'a refoulé à ce moment-là.
Oui.
Voilà, ça a duré jusque fin de matinée du lendemain. Nous étions donc épuisés de fatigue et les nerfs à bout. Et on nous a menés à la caserne Mortier pour aller boire un café ou une bière, si on voulait. Et là, nous avons vu la télévision, au journal télévisé, avec Roger Frey, ministre de l'Intérieur, qui a affirmé solennellement qu'il n'y avait pas eu d'événement, comme on pouvait l'imaginer, qu'il y avait une simple opération de vérification d'identité, et qu'il n'y avait rien eu, à part chez les policiers, où il y avait eu 2 blessés. Mmh. Voilà. Alors à ce moment-là, on est venu nous chercher, et on est remonté dans le camion, on est allé dans notre caserne. À la caserne, on nous a ouvert exceptionnellement les douches, on a eu droit à se reposer, et on est reparti à 5h l'après-midi. Nous avons donc recommencé notre service, mais non plus dans le grand amphithéâtre dont je vous parlais, mais dans les bâtiments à côté d'exposition. Et alors, dans la nuit, on nous a demandé d'accompagner des gens. Par exemple, j'étais à un carré, et je devais prendre un tel, et les amener à une porte. Je ne savais pas ce qui se passait derrière la porte. Jusqu'à un moment donné où j'ai vu sortir les gens de cette porte. Et en particulier un, ça c'est extrêmement clair, dont on a dit qu'il avait 4 membres cassés, qui était dans un état épouvantable, il avait une plaie à la tête. Nous l'avons mis sur un brancard, et nous l'avons porté sur une espèce de tente qu'on avait montée, dans un des halls, qui était le hall infirmerie. Mm-hmm. Si vous voulez, ça a duré jusqu'au samedi soir, ça. Le samedi soir, moi je suis rentré crevé, et nous avons eu droit à une permission de soirée. Je suis à la porte de Montreuil, chez le frère de mon père, mon oncle, et j'ai raconté ça, très excité, vous voyez. Et à ce moment-là, mon oncle a mis la télévision, que c'était le journal télévisé, et il m'a dit à la fin, mais enfin, imagine-toi, s'il y avait eu quelque chose, ça se saurait.
Le vent modéré soufflera d'ouest, les températures maximales baisseront un peu, cependant que les minimums resteront inchangés. Au sud de la ligne Nantes-Strasbourg, le temps sera chaud et orageux. Les orages seront plus fréquents et plus violents sur le relief, ainsi que sur le sud de l'Alsace, alors que les éclaircies seront plus marquées sur la Vendée, les Charentes, le Berry. Quant aux températures, elles resteront du même ordre que précédemment.
Ici, on noie les Algériens, 17 octobre 1961, 50 ans, un demi-siècle après, jusqu'à 16 heures à travers les archives de la base où j'y suis, les émissions, les reportages, les témoignages et les analyses que nous avons effectuées depuis une vingtaine d'années.
Bonjour, je m'appelle Samia, je suis née le 6 mars 1961 et je suis d'origine algérienne, née à Paris. Et j'ai toujours cru, toute petite, c'est une arabe de Paris qui vous le dit, que quand on était arabe, on risquait de finir dans la Seine, mais je ne savais pas pourquoi. Mes parents parlaient de la guerre, et puis c'est tout. Et puis je ne le savais pas. Et puis j'ai su un jour, 30 ans après, j'ai su ce qui s'était passé. Et ce que je voudrais dire, c'est que j'avais un papa qui avait choisi le mauvais camp, qui avait choisi la France, l'Algérie française. Et j'ai donc vécu ici. Et j'ai beaucoup de peine, parce que moi je demande des excuses. Je demande que De Gaulle demande pardon pour ce qu'il a fait aux Français qui étaient engagés de l'autre côté, c'est-à-dire aux Algériens qui se considéraient Français, même si c'est ambigu et même si c'est difficile. Je pense qu'il n'y avait pas de bon et de mauvais. Voilà. Et merci beaucoup, Daniel Mermet, d'en parler.
Alors voilà, avec Samia, on voit le cheminement de l'oubli, l'impossible oubli, l'histoire d'un oubli qui reste à écrire, l'histoire d'un effacement, d'un impossible effacement. On a occulté cette histoire en France. On a, pendant des années, raconté ça, c'était passé pour un ancien combattant, ça n'intéressait personne, ça emmerdait tout le monde. C'était le cas dans la communauté française, ici. C'était le cas aussi en Algérie, et c'était aussi le cas dans la communauté maghrébine en France. Et puis, depuis quelques années, 81, 91, et là encore, eh bien, ça s'ouvre, même si c'est ambigu, même si c'est difficile, dit Samia. Voilà ce que dit Farid Aïchoun, qui a vécu, nous a raconté comment il était gosse ce soir-là, du 17 octobre, comment il a vécu tout ça avec sa maman, etc. Aujourd'hui, Farid Aïchoun, qui est de formation d'historien, est journaliste, notamment au journal Le Nouvel Observateur. Les adultes de l'époque, ceux qui ont vécu cette offense, ce pogrom, cette ratonnade du 17 octobre 61, pourquoi, au fond, est-ce qu'ils ne se sont pas manifestés plus tôt sur cette horreur ?
Parce qu'il y a un proverbe, les Algériens disent en arabe, l'ifatmet, ce qui est passé est mort. On a fait la guerre, c'était pour l'indépendance. Quelles que soient les misères que nous avons subies, si tu veux, la dimension raciste du 17 octobre 61, ils ne l'ont pas intégrée. Pour eux, c'était un acte de guerre. Ils étaient en guerre, ils sont battus bien qu'ils soient allés, sans armes, sans couteau, sans manche de pioche, sans rien.
Même pas une épingle.
Même pas une épingle, c'était clair. Mais pour eux, c'était là-bas, on souffrait. Il y avait le napalm en Kabylie, dans les Aurès, dans un certain nombre d'endroits. Il y avait les tortures. Donc, il fallait aussi payer le tribut pour cette indépendance. C'était l'Algérie, c'était un pays rêvé, donc il fallait y retourner. Et puis, les gens, aujourd'hui, ils se disent comment ? Je n'ai rien à dire. Je me suis battu pour mon pays. Enfin, c'est ce que disent les vieux en général. Et je suis toujours là à manger dans la main de Madame la France. Donc, quelque part, ils se vivent en situation d'échec. Donc, ils n'ont pas transmis cette mémoire à leurs enfants. C'est pour ça que les beurs sont un peu déconnectés, que les beurs ne connaissent pas l'histoire de leurs parents et que souvent, bêtement, ils vont chanter la sempiternaire ritournelle des parents qui ont rasé les murs. Mon Dieu, s'ils savaient que leurs pères ont été souvent des héros. Ce sont des gens qui se sont battus, qui leur ont donné une dignité. Et puis comme il n'y a pas beaucoup de communication entre un père et son fils, c'est parce que ça c'est dû à la tradition maghrébine, berbère d'ailleurs. Il y a un respect et les vieux n'ont jamais dit à leur fils ce qui s'était passé, n'ont pas transmis la mémoire. Donc les beurs sont sans mémoire. Il y a des gens qui n'ont toujours pas digéré que l'Algérie était algérienne, qu'elle était indépendante et qu'il fallait avoir des relations normales d'État à État avec. Paradoxalement, c'est la présence de l'immigration qui vient rappeler en même temps comment... parce que c'est une défaite pour la France, la guerre d'Algérie. C'était une véritable défaite pour la troisième puissance du monde, se faire battre par des gens qui marchaient pieds nus et qui avaient une matte pour deux. C'est pas encore bien passé. La dimension de l'immigration, elle a une dimension humaine. C'est vrai que les Algériens pensaient repartir.
Et c'est peut-être la mort dans l'âme qu'ils ne sont pas partis pour certains. Parce qu'ils ont fait des enfants, ils n'ont pas vu aussi grandir leurs enfants. Et la société française non plus n'a pas vu grandir leurs enfants. Et ces enfants-là sont chez eux en France. Et en plus, de par la loi et de par le code de la nationalité, ils sont français. Donc il faudra bien faire avec. Et peut-être, il faudra réussir ce qu'on n'a pas réussi à faire en Algérie, à ce que les pieds noirs, les enfants de Harki et les enfants de FLN vivent ensemble en harmonie. Il faudra peut-être que la France soit la France. Parce que la France... Comme dit Benjamin Stora, l'Algérie n'a jamais été française. Parce que si l'Algérie avait été française, on aurait appliqué les lois de la République en France. Et mon grand-père aurait appris à lire et à écrire. Et mon père n'aurait pas été traité à coups de pied dans le derrière. C'est parce que l'Algérie n'a pas été française. Elle a été une colonie française avec des citoyens et avec des indigènes de seconde zone. D'ailleurs, on l'a vu, puisque quand Pétain arrive au pouvoir, la première chose qu'il fait, c'est qu'il enlève la nationalité française aux Juifs. Ils redeviennent, comme les musulmans, indigènes.
Alors Farid Aïchoun, journaliste, parle de Benjamin Stora. Mais on lui a demandé, sur cet oubli, sur l'histoire de cet oubli, quel a été le cheminement, en fait, l'histoire de notre mémoire à tous sur cette journée portée disparue. Benjamin Stora.
Tout d'abord, le fait de dire qu'on n'en a pas parlé n'est pas tout à fait vrai, puisque au lendemain du 17 octobre 61, la presse parisienne en particulier a titré sur cet événement considérable, sur cette très grande manifestation réprimée. Et n'oublions pas que Paris Match a fait sa couverture sur l'événement. Alors il faut s'interroger quand même sur cette sensation d'absence et sur cette permanence comme ça diffuse d'occultation qui existe autour de ce terrible événement du 17 octobre. Alors à cela, il y a peut-être plusieurs raisons. La première... c'est qu'il y a eu les victimes françaises de Charonne, la manifestation qui a été appelée en février 1962, à quelques semaines des accords d'Évian, et cette immense manifestation parisienne de plusieurs centaines de milliers de personnes a recouvert, qu'on le veuille ou non, je veux dire, la mémoire des victimes algériennes du 17 octobre 61. Il y a une deuxième raison qui est aussi très très importante, c'est l'amnistie qui a été décidé dès 1962, dès les accords d'Évian, par le général de Gaulle, pour tous les événements liés à la guerre d'Algérie. Amnistie de 62, amnistie de 64, amnistie de juin 68, amnistie de 74, et puis enfin amnistie de 82.
Donc aucune chance pour rouvrir les dossiers de cette affaire-là.
C'est-à-dire que toutes ces amnisties ont construit l'amnésie. Puisque la non-ouverture, effectivement, des dossiers ou des traductions en justice de responsables éventuels de ces meurtres ou crimes entretiennent le sentiment d'absence. Ça, c'est bien évident. Donc, je crois qu'il y a là une deuxième raison évidente. Et puis, il y a une troisième raison qui, à mon sens, est très légitime. C'est que devant cet effroi, cette nuit terrible d'erreur, eh bien, la plupart des victimes, comme c'est souvent le cas dans ce genre d'histoire, ont choisi le silence, quoi. On préférait tourner la page. Donc on a eu beaucoup aussi de silence de la part de ceux qui avaient été victimes de cette répression, ce qui est tout à fait normal. Enfin bon, parce qu'il faut tourner la page pour pouvoir vivre, hein. Il faut oublier aussi pour vivre, hein. On ne peut pas toujours vivre dans le ressentiment, dans le malheur, dans la guerre, dans la souffrance, dans le malheur. Bon, c'est pas possible. Donc il y a plusieurs raisons qui vont expliquer cet enfouissement de mémoire.
Mais alors, qu'est-ce que ça représente du côté algérien, hein? Et puis vous nous dire aussi, si vous voulez, ce que ça représente dans la deuxième ou troisième génération des enfants de ces victimes ou de ceux qui étaient là à cette époque-là. Alors prenons d'abord l'Algérie, du côté algérien.
Du côté algérien, le 17 octobre 61 est une grande date, hein, c'est une date officielle, il ne faut pas l'oublier. C'est une grande date comme le 1er novembre 54, c'est-à-dire le déclenchement de la guerre contre la France, ou le 5 juillet 62, c'est-à-dire l'indépendance de l'Algérie. Le 17 octobre en Algérie, c'est la journée nationale de l'immigration. Hein, c'est une journée, normalement, célébrée, commémorée depuis très longtemps, de fraternité, de solidarité avec ceux qui sont de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire en France. Et chaque année, en Algérie, on entretient la flamme du souvenir. Hein, sur Octobre était rouge, la Seine charriait les cadavres, on a comme ça chaque année des articles dans El Moudjahid ou à la télévision algérienne aussi, sur cet événement qu'a constitué le 17 octobre 61. Alors, donc on a par conséquent... un entretien de mémoire. Alors cet entretien de mémoire, il participe aussi de l'héroïsation de l'écriture de l'histoire en Algérie. C'est-à-dire qu'on a cette forme de commémoration par héroïsation de l'histoire, c'est-à-dire les Algériens ont combattu et ont gagné, bon, et ont remporté la victoire. Et le 17 octobre, les victimes du 17 octobre participent de ce processus commémoratif héroïque. Bon. Donc ça, c'est le côté algérien. Alors ce côté algérien, bien sûr, commémoratif, dissimule toute une série de questions politiques sur ce qui s'est passé le 17 octobre. Par exemple, la Fédération de France du FLN a-t-elle eu raison d'organiser cette manifestation le 17 octobre ? Est-ce qu'elle avait bien mesuré les risques qu'elle prenait en affrontant directement l'État français sur le général de Gaulle à cette époque-là ? Quelle a été l'attitude du GPRA dans la prise de décision de cette manifestation du 17 octobre ? En d'autres termes, il s'agit là des rapports entre la Fédération de France du FLN et le GPRA. N'oublions pas que la Fédération de France du FLN a été évincée du pouvoir en Algérie après 62. Donc il y a toute une série de luttes politiques à l'intérieur du nationalisme algérien, légitimes aussi, classiques, comme dans toute formation, qui sont importantes. Et puis aussi du côté algérien, il y a eu ces espèces de conflits sanglants, et c'est vrai, terribles, qui ont été occultés du côté algérien avec le MNA, avec les gens de Messali. Qui eux-mêmes, par exemple, avaient organisé le 9 mars 1956, devant l'Assemblée nationale, une très grande manifestation d'ouvriers algériens en France, qui a été très très durement réprimée par la police française. C'était une manifestation contre le vote des pouvoirs spéciaux. Pouvoirs spéciaux qui ont été votés par l'ensemble de la gauche française, soit dit en passant. Donc, cette manifestation d'Algériens a été très sévèrement réprimée. Et bien évidemment, dans l'héroïsation, dans la commémoration... On n'entend jamais parler de cette manifestation du 9 mars 1956. On ne parle que de la manifestation du 17 octobre 1961, c'est organisé par le FLN. Ça, c'est le côté algérien. Et puis, il y a le côté français. Le côté français sur le 17 octobre 1961, c'est Papon, qui a été préfet de police de Paris, comme on le sait, qui avait décidé ce couvre-feu du 5 octobre, etc. Sorte de ghettoisation spatiale de la population algérienne en France. Bien. Mais Papon... dans le fond, n'a fait qu'obéir à des ordres. Des ordres qui lui avaient été donnés par Roger Frey, ministre de l'Intérieur, qui lui-même, Roger Frey, obéissait à des ordres donnés par le chef de l'État, c'est-à-dire le général de Gaulle. Bon. Il ne faut pas, là aussi, oublier les circonstances politiques du moment. Le général de Gaulle décide les négociations avec le FLN à Évian, en octobre 1961, et il ne tolère pas, par conséquent, une démonstration politique de force du FLN. Puisque ces négociations doivent s'ouvrir en novembre 1961. C'est pour cela qu'il donne des consignes d'extrême fermeté à son ministre de l'Intérieur pour que la manifestation du 17 octobre n'ait pas lieu. Et à partir de là, on a par conséquent cette chaîne de responsabilité du côté français qui va du haut vers le bas. Et puis on a du côté français aussi ce qui se passe en bas, c'est-à-dire dans la police parisienne. Alors, dans la police parisienne, il y a incontestablement des éléments d'extrême droite qui sont très favorables à l'OS, on les verra d'ailleurs à l'œuvre au moment du métro Charonne, c'est évident. C'est-à-dire qu'on a une police parisienne extrêmement politisée dans le sens du maintien de l'Algérie à la France, dans le sens de l'Algérie française. En plus, il y a des intoxications, manipulations qui ont lieu plusieurs jours avant la tenue de cette manifestation.
Et puis il y a des victimes dans la police aussi.
Il y a des victimes de la police incontestablement.
Victimes du terrorisme et des attentats.
Tout à fait. Donc tout ce climat-là fait que nous assistons à une montée en puissance d'une espèce de haine-ressentiment. Je parle de la base policière qui va trouver à se venger, à se défouler de manière sanglante, terrible et cruelle dans la nuit du 17 octobre 61. Et ces deux éléments combinés, c'est-à-dire volonté étatique de répression par le haut et volonté de vengeance et de haine par le bas, se combinent, se conjuguent pour donner cette espèce de répression terrible du 17 octobre 61.
Voilà l'analyse de Benjamin Stora qui nous avait donné il y a déjà pas mal d'années. Je pense pas qu'il ait beaucoup de choses à ajouter, à modifier aujourd'hui. Sans doute un peu, mais en gros, c'est ça. Alors, aujourd'hui donc, manif à Paris à 18h, je le disais en commençant devant le cinéma Le Rex, sur les grands boulevards, et ensuite la manif descendra à travers la rue Réaumur, la rue Beaubourg, jusqu'à Notre-Dame, et jusqu'au pont Saint-Michel. Enfin, vérifiez l'itinéraire, je peux me tromper. L'un des animateurs de cette manif, parmi d'autres responsables d'associations, c'est Mehdi Lalaoui, qui est l'un des auteurs du film Le silence du fleuve, sorti il y a une vingtaine d'années avec un bouquin. J'espère que le bouquin est toujours en disponible parce qu'il est particulièrement efficace. Et puis, donc, animateur l'association Au nom de la mémoire. On s'apprête a célébré le sinistre anniversaire du 17 octobre 1961. C'est difficile de résumer ce qui s'est passé à l'époque, c'est difficile aussi de résumer ce qui s'est passé depuis, mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez ? Ton association et toi, qu'est-ce que vous voulez ?
Mon association, c'est au nom de la mémoire. Au nom de la mémoire, c'est une association qui regroupe des descendants de manifestants du 17 octobre 61, des franco-algériens, mais pas seulement des franco-algériens. On est des citoyens de ce pays et notre association se bat pour cette reconnaissance du 17 octobre 61. On réclame depuis tant et tant d'années que justice soit faite. Et justice soit faite, pas devant un tribunal, justice soit faite par les mots. Ce que nous réclamons depuis tant d'années, c'est que les plus hautes autorités de l'État, le président de la République, le Premier ministre, puisse nommer ce qui s'est passé le 17 octobre 61 et les jours suivants, puisse dire qu'il s'est agi d'un massacre de gens désarmés. Voilà ce qu'on réclame.
Un crime d'État ?
Oui, complètement, un crime d'État, parce que comme je l'ai dit, c'est la police de la République qui a assassiné, et pas par accident, parce que les assassinats ont lieu le 17 octobre, dans la nuit du 17 octobre, ont lieu au cours des jours suivants, ont lieu dans l'enceinte de la préfecture de police de Paris, sur les ponts de Paris, sur les grands boulevards. C'est un crime qui a fait l'objet de dizaines et de dizaines de morts durant cette guerre qu'on a appelée la guerre d'Algérie, qui est nommée seulement qu'en 99, hein, parce que depuis 99, l'Assemblée nationale renomme ces événements d'Algérie, guerre d'Algérie. Il y a énormément de cadavres dans les placards. Il y a la torture systématique, il y a le drame des harkis, il y a l'exil.
De Paris, comme t'es là.
Bien sûr. Cette guerre a été terrible. Il y a eu une chape de plomb. On ne prétend pas faire l'histoire de l'autre côté de la rive. Nous sommes des gens qui sommes nés ici. Nos parents étaient considérés des Français à l'époque. Et nous essayons de reconstruire l'histoire de notre point de vue de ce côté de la Méditerranée. Alors que c'est sûr que cette histoire dérange et culpabilise. Pourquoi ? Parce que ce qui s'est passé à Paris, c'est à peine 20 ans après la rue Lauriston. La torture de la Gestapo contre des résistants, c'est 20 ans après la rafle du Veldiv en France. Et moi, je me souviens qu'en 91, quand on demandait à des jeunes journalistes qui sortaient de l'école du journalisme de Lille ce que c'était le 17 octobre, ils nous disaient « Ah oui, Sharon
oui. !»
Parce que pour ces jeunes-là, qui n'avaient jamais appris cette histoire, c'était pas possible que la République puisse commettre à travers sa police, après la Deuxième Guerre mondiale, au cœur de Paris, au vu et au sud de tout le monde, c'était pas possible, c'était inimaginable. C'est ça qui culpabilise encore aujourd'hui.
Ouais.
Et ce qu'on essaye de dire et ce qu'on essaye de faire à travers ce 50e anniversaire, c'est de dire, dans quelques jours, dans quelques mois, il va y avoir 2012, la fin de la guerre d'Algérie, l'indépendance. C'est une occasion unique pour lancer la fraternité, pour lancer la réconciliation.
Quels échos tu as du côté, justement, au gouvernement ? Est-ce que vous êtes écouté ? Est-ce que vous avez des réponses ? Est-ce que vous avez des signaux ?
Oh, les signaux, on va les avoir dans les jours qui viennent, parce que c'est l'acceptation citoyenne dans ce pays qu'on ne peut pas laisser la République avec ses trous de mémoire.
Oui,
et donc le gouvernement,
voilà.
Je pense, nous on espère que dans les jours qui viennent, il va y avoir des contacts, des déclarations pour qu'il y ait une reconnaissance officielle. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il va y avoir les anciens appelés qu'on fait la guerre d'Algérie. Il va y avoir les anciens manifestants algériens et leurs familles. Il va y avoir la société française dans les rues de Paris le 17 octobre. Nous allons marcher dans les rues de Paris. Nous allons partir du Rex et nous allons arriver sur le pont Saint-Michel. On ne peut pas, dans une république, passer ces crimes par pertes et profits. Et ce qu'on réclame, ce n'est pas que les gens se mettent à genoux et demandent pardon. Ce qu'on réclame depuis toutes ces années, c'est ça le combat au nom de la mémoire, c'est que ce crime puisse être nommé.
Merci à tous. Donc, vous avez compris, tout à l'heure, on se retrouvera dans la manif à partir du Rex à Paris. Mais n'oubliez pas d'autres manifs. J'en ai cité à Lyon, Marseille, Strasbourg. Enseignez-vous. Merci à Mehdi Lalaoui, Gérard Grange, Samia, Benjamin Stora et Farid Aichoun. Je rappelle aussi les titres des films qui sortent. Ici, on voit les Algériens, Octobre à Paris et beaucoup d'autres. Vous trouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, et sur le site là-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez réécouter cette émission et envoyer vos messages et vos observations. Vous pouvez le faire également, évidemment, sur le répondeur de Là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Grégory Salomonovitch y attend vos messages. À la technique aujourd'hui, Éric Morin et Michel Bézikian, Bertrand Chometon et Franck Adhérère ont réalisé cette émission assistée de Marina Touillez. Réclame.
Maman, qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de nous ?
Eh bien, ça te dirait que votre argent de poche corresponde à 0,25% du PMSS.
Hein, le... Je comprends rien.
Bah nous non plus, on ne comprenait rien. Jusqu'à ce qu'on souscrive à un contrat santé pour la famille chez Malakoff Médéric.
Malakoff Médéric prend soin de vous. Pour une meilleure lisibilité, vos droits santé sur votre espace client en ligne sont exprimés en euros et non plus en pourcentage. C'est ça, prendre soin de la santé, du bien-être et du bien vieillir de chacun. Malakoff Médéric, présent pour votre avenir.
Du 15 au 21 octobre, venez à la fête de l'énergie pour faire le plein de conseils auprès de votre espace info énergie et réaliser des économies dans votre logement.
Pour participer aux animations près de chez vous, rendez-vous sur infoenergie.org ou au 0810 060 050, prix d'un appel local. Faisons vite des économies d'énergie, ça chauffe. Grenelle Environnement, entrons dans le monde d'après.
MMA, c'est aussi le premier réseau social d'assurance pour les professionnels ?
Ah, pour moi, c'est sûr. Tenez, ma chambre froide est tombée en panne et toutes mes marchandises étaient perdues. Vous imaginez la catastrophe ? Il fallait trouver une solution.
Et alors ?
Zéro tracas. MMA l'a fait. Ils ont pris en charge les réparations de ma chambre froide et les marchandises qui y étaient stockées m'ont été remboursées.
MMA l'a fait !
Bien sûr ! C'est qui les clients pros ?
C'est nous ! Zéro tracas ! Zéro blabla ! MMA !
Offre soumise à condition.
Oui, j'ai oublié de citer pas mal d'articles de presse sur le 17 octobre. Dans l'Humanité, il y a un numéro spécial, un crime d'État. Alternative libertaire aussi, qui a consacré un numéro à octobre 1961. Politis également. Et puis le site Mediapart, qui consacre pas mal de place à cet événement. À tout à l'heure dans la manif. À demain, 15h pour Là-bas si j'y suis. Je vous laisse avec Laetitia Gaillet pour les infos. Salut.
On a désormais les chiffres définitifs de la primaire socialiste. Plus de 2 800 000 personnes ont voté hier, soit 7% de plus par rapport au premier tour. François Hollande a donc remporté le deuxième avec 56,6% des suffrages. Martine Aubry recueille 43,4%. Pendant la campagne des primaires, Martine Aubry avait porté plainte cet été contre un blogueur strasbourgeois qui avait propagé des rumeurs sur sa vie privée. Il la décrivait alcoolique, homosexuelle et proche des milieux islamistes. Son mari, Jean-Louis Brochamp, comme un avocat défenseur des provocateurs salafistes et communautariste. Eh bien, le tribunal de grande instance de Paris a condamné cet après-midi le dit blogueur à 1 euro de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée, mais il n'a pas retenu le délit de diffamation. Le conseil d'administration d'Air France KLM vient de s'ouvrir à Paris, d'où s'y profile le changement à la tête de la compagnie aérienne. Pierre-Henri Gourjon, qui avait été reconduit pour 4 ans en juillet, devrait être débarqué finalement. Jean-Cyril Spinetta, son prédécesseur, devrait reprendre les manettes du premier groupe d'aviation européen. Et Alexandre de Juniac, ancien directeur de cabinet de Christine Lagarde, devrait lui diriger Air France. Il est reproché à Pierre-Henri Gourjon les mauvais résultats d'Air France KLM, notamment pour le prochain trimestre. On s'achemine vers la fin de la fonderie du Poitou. La procédure de mise en cessation de paiement de l'entreprise Dingrande dans la Vienne a été enclenchée aujourd'hui à l'issue d'un CE extraordinaire. Le site était paralysé par une grève depuis le début du mois de septembre. Les salariés protestaient contre un plan de compétitivité qui prévoyait la baisse de 25% des salaires des ouvriers et 15% pour les cadres. Les fonderies du Poitou emploient 480 personnes. Les deux principaux syndicats portugais appellent aujourd'hui à la grève générale. Ils dénoncent le plan d'austérité du gouvernement. L'appel a donc été lancé, mais on ne sait pas à quelle date le mouvement, lui, commencera. À Athènes, en Grèce, l'appel à la grève générale est pour mercredi et jeudi, date à laquelle le Parlement doit adopter de nouvelles mesures d'austérité. Mais déjà, en raison d'un débrayage de 48 heures des marins, il n'y a pas de ferry pour rallier les îles. Par ailleurs, les autorités grecques ont été obligées aujourd'hui d'appeler l'armée pour remplacer les éboueurs en grève. Cela fait 15 jours maintenant que les poubelles n'ont pas été ramassées dans la capitale.
En France, on l'apprend aujourd'hui, 3 collégiens soupçonnés d'avoir fait exploser jeudi dernier une bombe artisanale dans leur établissement de Châlons en Champagne dans la Marne ont été mis en examen. Âgés d'une quinzaine d'années, ils sont poursuivis pour notamment violences aggravées. Leur bombe était une bouteille en plastique remplie d'acide et d'aluminium. Ils l'ont fait exploser dans la cour de récréation. 5 élèves du collège ont été légèrement blessés. Définitif et irréversible, d'après un responsable du PNV, le principal parti politique basque, l'ETA doit annoncer cette semaine le cessez-le-feu actuel devient donc définitif et irréversible. Ce sont ces termes. Le preneur d'otages de l'agence Pôle emploi du 11e arrondissement de Paris s'est donc rendu. Ses otages, 2 dirigeants de l'agence, sont sains et saufs. L'arme qu'il avait avec lui était factice. Enfin, la mairie de Marseille a entériné ce matin un arrêté anti-mendicité. Il est destiné à lutter contre les comportements portant atteinte à l'ordre public. C'est le premier arrêté pris dans la cité phocéenne à titre permanent. Vous écoutez France Inter, il est 16h04.
Cette semaine dans le Pont des Artistes, Isabelle Dornin reçoit Arthur Hache.
Oh ma beauté, suis-moi, ça ne fait que commencer.
Ornette. Et Fool's Gold.
Rendez-vous pour l'enregistrement de l'émission mercredi à partir de 18h devant la porte B de la Maison de Radio France. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter. France Inter.
La différence.
Et c'est l'heure de Frédéric Lodéon pour Carrefour de l'Odéon.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, Karl Maria von Weber, on connaît le Freischütz de lui bien sûr, on pense à un homme d'opéra, mais il a écrit aussi pour son instrument, le piano, au cours de sa brève mais très mouvementée carrière, et il aurait pu, s'il avait écouté son frère Fridolin, renoncer complètement, son demi-frère, enfin peu importe, parce que celui-ci avait dit qu'il n'avait aucune capacité pour la musique. On ricane bien aujourd'hui, voici le rondo presto de la première sonate pour piano de Karl Maria von Weber.